BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invitée, Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture, fondatrice, présidente du fonds Corelia Capital. Fleur Pellerin, merci beaucoup d'être avec nous en studio.
En chair et en os.
C'est en chair et en os, voilà, ça fait bizarre de voir des gens. Mais aujourd'hui, c'est le déconfinement, donc c'était important de marquer le coup. Fleur Pellerin, beaucoup de questions à vous poser. Évidemment, j'en poserai quelques-unes à l'ancienne ministre de la Culture, qui traverse une période évidemment extrêmement difficile. Et puis, vous êtes, donc je le disais, la patronne de Corelia Capital. Et vous avez continué à faire des affaires, comme quoi le capital investissement, le digital, ça continue à fonctionner, ça a même continué à fonctionner pendant ces 55 jours de confinement. Mais j'ai d'abord une question. Vous avez des fonds coréens dans Corelia Capital. Vous connaissez bien la Corée. C'est vrai que même si aujourd'hui ça repart ponctuellement parce qu'ils ont été dans des bars et des boîtes de nuit, il y a quand même un miracle de la Corée du Sud, la manière dont elle a traversé, le pays a traversé cette crise du Covid. Comment vous l'expliquez ?
Bah, je pense que c'est pas du tout un miracle. En fait, c'est une question d'organisation. C'est peut-être aussi une question de discipline de la population. Mais je crois que le gouvernement était extrêmement bien préparé à cette crise parce que il y avait eu un peu de discussion au moment de la précédente crise qui s'appelait le MERS, le syndrome respiratoire qui venait du Moyen-Orient, où l'État avait été accusé de ne pas en faire assez. Donc, ils avaient mis en place des protocoles extrêmement précis. Et je pense que quand la crise s'est déclenchée, ils ont juste eu à appuyer sur un bouton. Et en fait, toute l'organisation administrative s'est mise en marche pour faire en sorte que, hier, un triptyque qui, à mon avis, a été très efficace, c'est des tests massifs, des masques pour tout le monde, tout de suite, et évidemment l'isolement absolu des gens diagnostiqués malades, quoi.
Oui, on a envie de dire, c'est dommage qu'on ait suivi l'exemple chinois du confinement pour tout le monde et non pas l'exemple de la Corée du Sud, non, en France, c'est dommage.
Oui, surtout, la Corée n'a jamais confiné, c'est-à-dire qu'en fait, quand on voit l'impact sur l'économie, les premières évaluations qu'on a pour le premier trimestre, on voit que la France va sans doute avoir une récession de l'ordre de 7%, alors que la Corée, c'est à peine plus de 2%. Donc, tous ces choix et cette organisation ont des conséquences sur la vie sociale, évidemment, mais aussi sur la vie économique. Je pense qu'on en est qu'au début pour l'instant, mais on mesure à quel point finalement la crise a été bien gérée en Corée, effectivement.
Oui, ça c'est un point important. On va peut-être, puisqu'on reste sur la crise elle-même, regarder un peu ce qui se passe du côté de la culture, que vous connaissez bien, parce qu'en plus vous avez été ministre de la Culture, bien sûr, mais aussi vous aviez lancé Cannes Série, vous étiez même venu ici nous en parler, qui devait avoir lieu mois de mars, et qui en fait, vous avez reporté en octobre, mais même en octobre, vous n'êtes pas sûr de savoir ce qui se passe. On voit bien que c'est une catastrophe pour la culture.
C'est une catastrophe pour beaucoup de secteurs,
hein. Je pense
à l'hôtellerie, les bars, etc., pour le tourisme. Mais c'est vrai que le secteur culturel, par ses modèles économiques qui sont par essence fragiles, par la façon dont sont aussi employés, notamment les intermittents, etc., c'est vrai que c'est un secteur qui va être durablement touché. Et honnêtement, on ne sait pas très bien quand on pourra encore recréer des grands rassemblements, ne serait-ce qu'aller au théâtre ou à l'opéra. On ne sait pas encore très bien quand ce sera à nouveau possible dans les conditions antérieures. Peut-être que ça sera dans de très longs mois. Donc effectivement, c'est un secteur qui est vraiment très sinistré et qui, je pense, attend pour le coup des mesures fortes de la part du gouvernement.
Des mesures ont été annoncées, en tous les cas par le président de la République, on le voit derrière vous pour ceux qui nous regardent à la télévision, notamment la prolongation des droits pour les intermittents du spectacle jusqu'en août 2021, bref, une sorte d'année blanche. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est la bonne réponse ou en fait quelque part...
C'était le minimum, je pense, c'était le minimum qui était attendu pour faire en sorte que ces gens qui vont être privés de revenus pendant toute l'année, probablement, puisse avoir un peu de sécurité matérielle pour ces mois-là. Mais bien sûr, il y a tout le reste. Il y a comment on organise comment on s'organise pour les festivals, pour la production, pour les tourneurs, pour le théâtre, pour tout le spectacle vivant en réalité, pour le patrimoine bien sûr, parce que les visites des musées, comment on redonne un peu d'air à tout ce secteur dans une période où on est très très incertain sur la capacité du public à revenir à nouveau vers ces lieux de culture. Donc c'était, je pense, le minimum attendu, mais tout le reste est devant nous.
Et qu'est-ce qu'il faudrait vôtre ? J'ose pas dire parce que c'est une phrase un peu idiote, mais enfin quand même, j'allais dire, si vous étiez en poste, qu'est-ce que vous auriez fait ?
Je suis bien heureuse de pas être
en poste. Oui, peut-être.
Parce que je pense que la tâche est extrêmement rude et donc moi je préfère ne pas trop commenter et ne pas
donner de conseils. Non, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque vous êtes encore largement dedans, vous voyez, vous êtes plus...
Je suis complètement... Enfin, je suis plutôt professionnellement à l'extérieur, mais je pense qu'il faut essayer de discuter avec l'ensemble des acteurs du secteur pour voir ce que sont les préoccupations des uns et des autres, parce que chacun a une problématique qui est différente. Ceux qui organisent des festivals, c'est pas la même chose que ceux qui ont des musées à gérer ou des lieux de patrimoine, et donc il faut absolument tout de suite avoir un dialogue permanent avec l'ensemble de la filière pour évaluer ce que sont les besoins économiques, quelle est la situation de détresse économique des secteurs, voir combien de temps ça peut durer et trouver des mesures, comme on l'a fait pour d'autres secteurs, hein. On l'a fait pour l'automobile, on le fait pour l'aérien.
Enfin, on l'a pas fait, on va le faire.
Il y a tout ce qui a été mis en place en termes de prêts garantis par l'État, etc. sont des mesures qui ont été mises en place extrêmement vite pour l'économie. Ouais. Je trouve que c'est vrai que sur le secteur de la culture, pour l'instant, ils peuvent bénéficier de certains prêts garantis par l'État, mais il n'y a pas tellement de solutions spécifiques au secteur culturel qui a pourtant beaucoup de spécificités et qui méritent donc un plan particulier, je pense.
Et justement, vous avez raison, c'est que quelque part, il y a presque trop de spécificités. C'est peut-être pour ça que finalement, ça rentrait pas dans une case tout de suite.
Peut-être, enfin c'est peut-être aussi parce que je pense que le secteur a besoin que le ministre échange avec eux, qu'il fasse des propositions, c'est son rôle. Donc ouais. Il va probablement, j'imagine, faire ce travail
dans les jours
qui viennent. Ouais.
Si on prend l'exemple de Cannes-Séries, par exemple, que vous avez créé avec la ville de Cannes, hein, bien sûr, ouais. Ça devait avoir en mars, la décision a été prise de la reporter en octobre, rien n'est moins sûr.
Alors nous, on a la chance d'être un festival, donc c'est un festival international, un rayonnement international de séries télévisées. J'en avais beaucoup discuté avec David Lisnard, le maire de Cannes, lorsque j'étais encore ministre. Il me semble absolument important que la France accueille un très grand festival international pour célébrer le genre de la série. Il y a quelques années, on méprisait un petit peu encore les séries. Maintenant, puis d'ailleurs, après le confinement, je pense que beaucoup de gens se sont familiarisés avec le genre, si ce n'était pas le cas avant. Mais tout le monde voit bien qu'il y a une créativité extraordinaire, ouais. Et un propos, une esthétique, etc., qui est propre au genre de la série, et que c'est vraiment devenu un genre artistique à part entière. Donc on avait décidé de créer ce festival de séries, qui en est à sa 3e édition. Et effectivement, on a été l'un des premiers festivals à annoncer l'annulation puis le report de notre événement, parce que ça nous paraissait, c'était prévu pour la fin du mois de mars, ça ne paraissait pas du tout sérieux de mettre en
danger. Même en octobre, c'est pas sûr.
Et donc là, normalement, on l'organise en octobre, et si on ne peut pas l'organiser physiquement, on fera quelque chose de super en digital. Enfin, on est décidé à organiser quelque chose de très beau pour
on peut faire maintenant un festival digital.
Absolument.
Oui.
Alors, on préférerait l'intégrer dans la magie de Cannes avec le tapis rouge, les projections dans l'amphithéâtre lumière, etc. Mais si ce n'est pas possible, évidemment, on ne mettra pas du tout en danger la vie de qui que ce soit.
Oui. Donc ça, c'est possible. Créativité, j'ai envie de dire, parfois, il y a trop de créativité lorsqu'on regarde le dernier épisode du Bureau des Légendes. En tous les cas, je ne suis pas la seule à avoir trouvé ça, qu'il y avait un peu trop de créativité. Mais vous avez raison, les séries, c'est vraiment, en tous les cas, c'est ce qui nous a tous un peu accaparés pendant cette période. Florent Pellerin, Corélia Capital. Donc maintenant, vous êtes venu une des personnalités fortes du capital investissement en France, mais pas que, hein, puisque vous avez des investisseurs étrangers. Vous avez continué à investir, donc pendant la crise, les affaires continuent.
Alors, on a annoncé pendant le confinement un investissement dans Vestiaire Collectif, qui est une jolie pépite française de la vente de seconde main. Donc, on est en plein dans la réflexion sur l'économie circulaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'émission est consacrée un peu au monde de demain. Je pense que là, on est vraiment en plein cœur du sujet. Donc, économie circulaire, une plateforme de revente de vêtements d'occasion, plutôt haut de gamme, qui a été créée par des Français, qui commence à s'internationaliser. Et en fait, la raison pour laquelle on a souhaité participer à cette aventure, et pour laquelle je pense eux ont accepté aussi qu'on participe à cette aventure, c'est qu'ils souhaitent développer leur activité en Asie. Et donc, moi, j'adore ces histoires d'entreprises françaises qui souhaitent s'internationaliser et qui voient grand.
Oui, mais alors, j'ai une question bête et méchante. La valorisation, elle se passe comment? Parce que la valorisation au mois de janvier et au mois de février, c'est pas du tout la même que la valorisation mi-avril, fin avril, début mai. Donc, est-ce que les valorisations ont beaucoup baissé?
Nous, on avait signé, de toute façon, on s'était engagé avant le confinement. À la fin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait juste des mesures un peu... On a juste travaillé sur des détails juridiques, techniques et une signature, etc. Donc, en réalité, le deal, comme on dit, était fait avant le confinement.
Voilà, mais vous voyez, ma question, elle n'est pas aussi un
modifié,
peu...
Ouais, ça n'a pas du tout modifié la valorisation. Et c'est une entreprise qui a plutôt bien marché pendant le confinement, donc il n'y a pas de raison que sa valorisation change entre entre janvier et maintenant, au contraire, parce que
mais sinon pour les autres
mieux maintenant.
Oui, mais sinon.
Mais sinon, effectivement, il peut y avoir il y a eu un sujet d'ailleurs, certains s'en sont un peu émus, d'investisseurs qui s'étaient engagés à investir et qui essayent de négocier pendant le confinement ou pendant cette crise des baisses de valorisation, c'est-à-dire essayer d'investir à une valeur moindre dans l'entreprise en tenant compte du fait que les perspectives sont moins bonnes qu'au moment où ils avaient commencé à discuter. C'est pas totalement anormal, mais il y a un code de bonne conduite qu'on a promu d'ailleurs avec l'association France Digital qui rassemble les startups et les investisseurs français, un code de bonne conduite pour essayer de faire les choses de manière réglo, pour ne pas
mettre... Ça existe, réglo, dans la finance?
Oui, bien sûr, parce que vous savez, c'est un petit milieu, chacun se connaît, et en réalité, si vous vous comportez mal une fois dans le cadre d'un investissement, tout le monde le sait. Et donc la prochaine fois que vous voudrez investir dans une bonne entreprise, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas accepté dans ce tour de financement. Donc en réalité, il y a quand même, c'est un peu de la théorie des jeux, mais il y a quand même un intérêt à bien se comporter et à préserver sa réputation, parce que encore une fois, ces choses-là se savent. Et aujourd'hui, c'est plutôt vous les investisseurs qui essayez de rentrer sur des bons deals plutôt que des entrepreneurs qui cherchent absolument des investisseurs. Il y a pas mal d'argent, et donc aujourd'hui, c'est plutôt compétitif pour les investisseurs comme nous de rentrer sur des très très bonnes entreprises.
Donc vous avez levé un premier fonds qui faisait 200 millions. Là, vous êtes en train de lever un nouveau fonds qui fait 400 millions. Est-ce que là aussi, est-ce que vous avez autant de facilité à le lever en ce moment
C'est plus difficile.
C'est plus difficile. C'est justement, dans quel état d'esprit et puis dans quel état tout court se trouve l'industrie du capital investissement?
Oui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, les investisseurs qui vont mettre de l'argent dans les fonds de capital investissement sont tous frappés par la crise à un titre ou à un autre. Et donc, certains sont dans une position un peu attentiste et donc avaient commencé à discuter avec nous et nous dire oui, ça nous intéresse. Puis maintenant, ils préfèrent attendre la fin de l'année et de voir un peu comment sur le plan macroéconomique les choses vont tourner. Donc effectivement, c'est pas une position extrêmement confortable, mais la chance que nous avons, c'est que nous sommes très fortement soutenus par nos investisseurs coréens, donc ceux dont on parlait tout à l'heure, Naver, qui est une très grande boîte de l'internet coréen, un très grand groupe qui nous soutient très très fortement et qui s'est engagé à nous soutenir pour le prochain fonds. Donc ça, c'est une certitude. Et puis on a des discussions avec d'autres investisseurs. On vient de se faire labelliser, je sais pas si vous en avez entendu parler, par ce comité technique des assureurs qui se sont collectivement engagés à investir 3 milliards d'euros sur les 3 prochaines années dans le secteur du capital investissement. Et donc, nous venons d'avoir le label qui nous permet d'être éligibles à ces investissements. Donc, on l'a eu pendant le confinement. J'ai fait un grand oral sur Zoom avec ce comité technique. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, évidemment, il y aura plus de délais que ce qu'on pensait au départ, mais je suis quand même relativement optimiste.
Oui. Et est-ce que ça va changer un peu la donne, vous pensez un peu on parlera du monde d'après tel que vous le voyez, peut-être vous l'anticipez du moins. Mais est-ce que avant c'était l'univers où c'est-à-dire toi, les prix étaient fortes, enfin progressaient d'une manière un peu vertigineuse. Il y avait la guerre entre la French Tech que vous avez créée, du reste l'expression elle vient de vous, entre la France, la Grande-Bretagne. Est-ce que pour vous voyez un peu les choses différemment, quoi?
Alors, il y a certainement, comme après chaque grande crise, au début des années 2000, en 2008-2009, il y a eu un mouvement de correction des valorisations. C'est vrai que là, on assistait à une inflation des valorisations. On investissait dans des entreprises qui étaient de plus en plus chères, compte tenu de ce qu'était leur chiffre d'affaires ou leur dynamique. Il va y avoir une correction, c'est certain. Il va peut-être aussi y avoir des phénomènes de mode dans les biotech, dans tout ce qui est santé à distance, télémédecine, etc. J'imagine qu'il y a certains secteurs
évidemment,
qui vont être un peu à la mode.
En plus, la biotech, on est plutôt assez en retard en France, même sur les belles pépites, mais enfin, on est plutôt en retard.
Oui, on a quand même de très très belles entreprises, mais il n'est pas impossible que dans ce secteur-là, il y ait moins de corrections. En revanche, c'est sûr que tous les investisseurs maintenant vont être beaucoup plus attentifs, je pense, à la qualité, enfin, ils le sont déjà évidemment, à la qualité des équipes, mais à la capacité de résilience des entreprises, dans l'hypothèse où il y aura à nouveau, parce qu'il est probable qu'on soit à nouveau confiné à un moment ou à un autre. Si
ah
on
oui, alors c'est ce que
vaccin.
Vous me disiez là, avant de rentrer en studio. Vous croyez un reconfinement?
Moi, je pense que c'est possible. Vous savez, il y a plusieurs scénarios. Il y a des scénarios où on montre qu'il y a, en fait, dès que les gens sont déconfinés, hop, ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire le taux de contamination par personne, réaugmente très vite, ce qui est en train de se passer actuellement en Allemagne, d'ailleurs. Ouais. Et dès qu'il atteint un niveau trop important, les urgences
sont
débordées.
Bon.
Les capacités hospitalières sont débordées. Et donc, à nouveau, il faut reconfiner les gens pour le faire rebaisser ce taux. Et donc, c'est pas du tout exclu. Il y a des gens qui ont modélisé un peu des scénarios où, en fait, ça fait un peu. comme ça des courbes qui oscillent et qui feront qu'à un moment, si nos capacités hospitalières ne permettent pas d'absorber l'afflux de malades, il faudra à nouveau reconfiner. Et je pense que c'est, enfin, moi je trouve que c'est une hypothèse qui est assez probable.
Ouais.
Et donc c'est vrai que pour l'économie, il faut tenir compte de ça. Il faut qu'on ait des entreprises qui soient capables, qui soient très agiles. C'est souvent le cas des startups. Elles sont habituées à être agiles. Mais enfin, c'est évidemment quelque chose qu'on n'avait pas en tête avant et qu'on aura en tête maintenant.
Oui. Est-ce que pour les startups, ça va être très difficile? Parce que les entreprises, même si elles ont, elles sont au stade d'après, honnêtement, elles ont des chances de s'en sortir. Enfin, bon, ça va être difficile, mais il y a un petit peu d'argent. Enfin, mais les startups, c'est un peu la catastrophe parce que vous êtes au tout début de votre projet.
Ça va être difficile pour les jeunes startups qui sont en train de chercher des financements. Oui, là, oui. Je crois que c'est le moment. Celles qui sont déjà financées, qui venaient de lever des financements, celles-là, elles ont de la chance. Celles qui étaient en train de lever, je pense qu'elles vont avoir des difficultés dans les 6 à 18 prochains mois. Parce que ça va être très difficile pour elle, plus difficile pour elle probablement de convaincre des investisseurs de prendre le risque d'investir. Mais ni plus ni moins que dans beaucoup d'autres secteurs. En réalité, quand vous regardez aujourd'hui la manière dont vont être affectés le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, des conférences, on parlait tout à l'heure de la culture. Bon, je pense que c'est quand même une crise qui va être assez générale.
Oui. Est-ce que vous dites que cet univers-là, et donc il va être fortement impacté, comme d'autres, on est bien d'accord, mais puisqu'on parle de ce secteur, ça va être assez fort. Est-ce que, en revanche, on va avoir des... Est-ce qu'on va devenir un monde qui va être dominé totalement par les GAFAM ? Un monde de GAFAM ?
Alors, j'espère que non, c'est mon pire cauchemar.
Oui, d'accord, ok, mais enfin...
Mais moi, c'est quelque chose que je...
Je pensais un instant, en vous écoutant, il y a Zoom, machin, toutes les applications de vidéoconférence, bah, finalement,
La raison pour laquelle j'ai créé ce fonds d'investissement, elle était dans le prolongement du travail que j'avais fait lorsque j'étais ministre en charge du numérique. C'était vraiment ce que j'avais le sentiment qu'une part croissante de la valeur était absorbée désormais par des grandes multinationales américaines et chinoises qui souvent, en plus, ne payent pas complètement leurs impôts là où il faudrait qu'elles les payent. Et donc, je me disais, c'est quand même dommage qu'en Europe, avec les talents qu'on a, les ingénieurs, l'esprit entrepreneurial qui est en train de changer, les industries quand même classiques qui sont historiquement des industries très fortes, etc. C'est dommage qu'avec tout ce cocktail, on n'arrive pas nous aussi à créer des entreprises de taille ou de rang mondial. Donc en réalité, une des raisons pour lesquelles on a fait la French Tech et une des raisons pour laquelle j'ai souhaité devenir un investisseur pan-européen, donc dans toute l'Europe, c'est aussi pour essayer d'aider des champions européens à émerger. Donc moi, j'y crois beaucoup, c'est un acte de foi. Mais effectivement, on voit bien dans la période, regardez, le gouvernement travaille sur une application, on est obligé de demander l'autorisation à Apple ou à Google.
Justement. J'allais vous interroger là-dessus.
Donc on voit bien, on mesure à quel point on est ultra dépendant à tout point de vue de ces multinationales américaines et c'est quand même très perturbant. Donc moi je souhaite vraiment qu'on puisse continuer et pas seulement en France, je pense que c'est vraiment un combat qui est européen, qu'on puisse continuer à soutenir ce que fait le capital investissement, des aventures entrepreneuriales françaises ou européennes, qui pourront un jour assurer un peu plus de souveraineté économique.
Oui, ça, je viens de dire, on pouvait encore l'espérer avant cette crise. Là, aujourd'hui, je veux dire, l'avance est tellement gigantesque que c'est pas possible.
Dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, il y a plein de nouveaux horizons qui sont possibles. Je pense qu'il faut pas être défaitiste parce que sinon c'est trop
triste. Mais
il faut être réaliste, ça c'est sûr. Et je pense que des crises émergent souvent aussi des personnalités entrepreneuriales, des histoires entrepreneuriales. Il y a de très belles histoires entrepreneuriales qui sont créés après 2001 ou après 2008. Je pense qu'il faut essayer d'espérer aussi dans ce moment où effectivement on s'est rendu compte de l'utilité parfois de caractère un peu anxiogène aussi, mais de la technologie dans nos vies, et à quel point ça peut être utile aussi quand on a à gérer des périodes de crise où on est confiné chez soi. Bon, on est quand même bien content de pouvoir continuer à échanger en télétravail, etc. Peut-être qu'il faut saisir cette opportunité pour que l'écosystème français, européen aussi, prenne sa chance. Surtout, on a des gouvernements qui ont compris aussi cette dépendance.
Et l'Europe aussi a pris un peu conscience de ça.
Oui, je pense que maintenant, les gouvernements européens sont prêts à soutenir des politiques un peu plus protectionnistes, peut-être, il faut dire le mot, puisque après tout, les Américains sont protectionnistes, les Chinois aussi. Et je pense qu'il faut vraiment soutenir de manière plus proactive notre industrie européenne, que ce soit l'industrie traditionnelle ou les industries numériques, pour faire en sorte qu'on ait davantage de champions plus autonomes, plus indépendants
Europe. Alors, quels sont les secteurs qui aujourd'hui vous paraissent porteurs ? Alors, biotech, santé, j'ai envie de dire, là, ça va être le carton plein. Enfin, j'imagine. Mais enfin, je ne sais pas. Quels sont les secteurs qui, pour vous, avec 15 participations aujourd'hui, est-ce qu'à la limite, vous allez en vendre certaines pour pouvoir réinvestir dans d'autres? Comment vous voyez bouger votre capital et votre portefeuille, pardon, ouais. Pour aller où?
Nous, on est des partenaires de long terme. En fait, quand on fait des investissements, on reste très, très longtemps à côté des entrepreneurs, des fondateurs ou des présidents. On les aide à faire grossir leur entreprise. Donc, c'est plutôt une stratégie où on sort, on rentre, etc. En général, on est plutôt là dans le long terme. Donc, pour le premier portefeuille, en tout cas, c'est comme ça qu'on va faire. En revanche, ce qu'on regarde aujourd'hui, on avait commencé à le faire, j'en parlais tout à l'heure, avant le confinement, mais on croit beaucoup à cette dynamique d'une consommation un peu plus raisonnée, de gens qui vont se dire, bon, bah, maintenant, est-ce que la fast fashion, tout ça, est-ce bien raisonnable, le coût écologique de tout cela. Et donc, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire du côté peut-être des agri-tech, du côté de la consommation circulaire. J'en parlais tout à l'heure avec Vestiaire Collective, qui est un très bon exemple de ça. C'est le fait de s'échanger des choses de seconde main. Donc, je pense que dans tout ce secteur qui paraît peut-être pas très technologique, il va y avoir des choses parce que je pense que les comportements des gens vont changer. Et moi, je vois, j'ai une fille qui a 15 ans, par exemple, 16 ans bientôt, la semaine prochaine. Elle ne consommera pas de la même façon que nous avons consommé. C'est clair, c'est évident. Sûr, ouais. Les vêtements, la nourriture, etc. Donc, autour des food tech, des agri-tech, de la consommation circulaire, moi, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives. C'est pas forcément les choses auxquelles on pense en premier, mais je crois beaucoup que les millennials voudront un monde de demain qui sera très, très différent du monde d'aujourd'hui.
Vous allez faire la liaison avec la question rituelle que je vais poser à tous mes invités. C'est quoi votre monde d'après? Mais d'abord, elle va à l'école? Elle va retourner à l'école?
Elle est au lycée, donc pour l'instant, elle ne sait pas très bien...
Quelle sauce elle va être mangée ou pas.
Exactement.
J'ai juste un petit point là-dessus sur les millennials, parce que c'est même pas des millennials, c'est des millennials moins 20. C'est Marc Simoncini, la figure mythique du capital investissement, et il me disait, mais maintenant, moi, je recrute plus des gens de 30 ans, il faut qu'ils aient pas plus de 20 ans, 22 ans, parce que ce sont eux qui vont vraiment changer le monde. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là ?
Bah, y a un effet de toute façon démographique. Je pense que c'est vrai que ce sont des gens qui ont plus l'avenir devant eux que nous. Moi, je suis très très frappée parce que dans mon portefeuille, j'ai justement deux entreprises qui marchent extrêmement bien, Glovo et Taxify, qui sont dirigées par des gens qui ont moins de 30 ans. Donc les entreprises, elles ont été fondées parfois par des gens qui avaient 19 ans. Et quand je vois la manière dont ils gèrent l'entreprise, la vision qu'ils ont, le côté très opérationnel, c'est vraiment, et la vision managériale, c'est très 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 impressionnant. Donc moi, je crois beaucoup que cette génération a des choses à dire, à des choses à faire et qu'elle va vraiment beaucoup nous impressionner. Ouais.
Alors justement, c'est la question maintenant, rituel, le monde d'après, selon Fleur Pellerin. D'abord, est-ce que pour vous, ça a un sens? Est-ce qu'il y aura vraiment un monde d'avant, un monde d'après ou pas? Monde d'après, c'est quoi votre ambition?
Bah, je trouve ça très difficile de répondre à cette question parce que là, on vient juste d'être libérés chez nous, de cette espèce de confinement de mois. Donc, je trouve que c'est très difficile de se projeter. Moi, je vous le disais à l'instant, je pense que les gens ont aussi réfléchi. Je pense qu'il va y avoir des changements de comportement, peut-être un rapport différent au travail, peut-être un rapport différent aux autres. Je trouve que ça a été très étrange, cette période où on ne pouvait pas interagir avec d'autres personnes, on ne pouvait pas voir nos amis autrement que par téléphone ou sur Zoom.
Mais qu'est-ce que vous avez retenu? Vous voyez, demain, je vais peut-être changer, je vais peut-être... Enfin, voilà.
Moi, déjà, je me suis dit que j'allais consommer probablement différemment. Je pense que je vais beaucoup moins maintenant. Je vais essayer de moins voyager. C'est compliqué parce que moi, j'ai souvent des voyages à faire en Asie. Alors là, je ne sais pas quand je pourrais recommencer à le faire. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir à mon empreinte carbone. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à plein de choses auxquelles finalement je réfléchissais pas trop en me disant de toute façon je suis obligée de le faire et j'ai pas vraiment le choix. Et là on s'est rendu compte que si finalement on avait le choix, même si c'est moins confortable de voir les gens en conf call ou en vidéo, néanmoins est-ce que le coût écologique d'un voyage transatlantique ou d'un voyage en Asie est nécessaire pour s'entretenir avec une personne pendant une heure? Donc c'est des choses auxquelles j'ai pensé. Bon, comme beaucoup de gens, hein, ça n'a rien d'original, mais je pense qu'on va vraiment réviser nos façons de voyager, nos façons de travailler, éviter des dépenses qui sont en réalité complètement inutiles, mais on s'en est rendu compte juste pendant cette période, et puis probablement changer nos modes de consommation.
Donc ça vous a changé profondément malgré tout?
Pas profondément, parce que je pense que ça a précipité des choses. Ça a confirmé et précipité des choses dont j'avais l'intuition. Et là, je suis assez persuadée qu'en fait, elles vont se réaliser.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, la première invitée du semaine de l'orage de ce monde d'après, ou en tous les cas de ce jour de déconfinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ancienne ministre de la Culture, donc et présidente de Corellia Capital. Et puis, Canceri, en octobre, viendra nous en parler. Peut-être, justement, ça sera par vidéoconférence ou par digital.
Non, je ne sais pas que ça sera.
On verra ça. Merci beaucoup. beaucoup dans un instant. Alors là, on va dans un autre registre de l'économie, puisque c'est Louis Gallois, le monsieur industrie, la figure de proue de l'industrie française, qui est notre invité. Il est président de la Fabrique et puis il est aussi président, bien sûr, du conseil de surveillance de PSA. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Louis Gallois, qui est un peu la figure de proue de l'industrie française. Il est président du think tank La Fabrique et puis, bien sûr, il est président du conseil de surveillance de PSA. Louis Gallois, merci d'être en studio avec nous. Voilà, c'est important, ce que je disais aussi à Fleur Pellerin en ce jour de déconfinement. Ce matin, on voit bien qu'on est un peu, pour reprendre l'expression du Premier ministre, sur la ligne de crête. Peut-être pour retrouver la reprise. En tout cas, on en est loin. Comment est-ce que l'industrie française se réveille ce matin ? Est-ce que vous avez des remontées ? Question que je posais à Bruno Le Maire, justement. Il n'était pas tout à fait capable de me répondre, du reste.
Ben écoutez, l'industrie française vient de subir un choc sans précédent. En avril, la production industrielle a baissé 36%. Elle est actuellement à moins 33% parce qu'il y a eu une légère reprise au début mai. C'est un choc considérable. Elle va sortir de cette épreuve plus endettée qu'elle ne l'était à l'origine, parce que beaucoup d'entreprises sont obligées d'emprunter pour leurs besoins de trésorerie, et le prêt garanti par l'État est une aide substantielle. Il va falloir continuer, parce que cette situation de trésorerie va perdurer. Elle risque même de s'accroître à mesure que les entreprises vont redémarrer, parce qu'il va falloir qu'elles s'approvisionnent et donc qu'elles achètent avant de vendre. Et je pense que donc la difficulté de trésorerie sont devant nous. Puis après, il faudra regarder les fonds propres. Parce qu'il est clair que les entreprises françaises qui étaient déjà très endettées avant la crise vont ressortir encore plus endettées. Il faut des fonds propres parce qu'on ne construit solidement que si on a des fonds propres.
Là, j'ai envie de dire, c'est presque l'agenda que nous a expliqué ce matin Bruno Le Maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est protection, soutien, et puis après, relance. Mais pour l'instant, on en est encore. Autre chose.
La relance viendra après.
Ouais. Est-ce que vous pensez que l'industrie française va quand même, je ne sais pas, on va perdre 10%, 20% de notre industrie française qui était en train de retrouver un peu de couleur?
Je ne fais pas de pronostic. J'espère que ça sera beaucoup moins que ça. Parce que nous avons une industrie dont vous savez qu'elle est assez limitée et que je milite depuis longtemps pour la réindustrialisation de la France. Et une des leçons de la crise, c'est cette extraordinaire dépendance qui est apparue. Et donc il faut que nous réindustrialisions la France, et cela va nécessiter beaucoup d'efforts dans les mois et les années.
Oui, mais est-ce que vous pensez qu'on a les moyens? J'ai envie de dire, il faut déjà soutenir les entreprises industrielles aujourd'hui.
Bien sûr, il faut les soutenir. Oui. Il faut les soutenir, je le disais, avec des prêts. Il faut les soutenir. On les a beaucoup soutenus avec le chômage partiel, qui a été une très bonne chose. On les soutient avec des prêts. Il va falloir maintenant les soutenir en fonds propres. Ça entraînera, de la part de l'État, des investissements assez lourds. Je vous rappelle que quand l'État rentre au capital d'une entreprise, ce n'est pas compté dans le déficit budgétaire, puisque c'est un placement. Et je pense qu'il faut que l'État se prépare à entrer au capital d'un certain nombre d'entreprises de manière provisoire. Et il revendra quand. J'espère d'ailleurs qu'il fera une plus-value.
Il l'avait fait du reste, pour PSA, en l'occurrence, il y a lors de la précédente crise.
Oui, l'État n'est pas rentré au capital. Il est rentré au capital à travers l'augmentation de capital. Vous avez raison.
Absolument,
raison.
Oui,
vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Mais là, il n'en est pas question. Et le projet n'est pas du tout d'aller dans ce sens-là. Mais c'est clair que pour un certain nombre d'entreprises, il va y avoir nécessité d'injection de fonds propres. Alors, il y a de la liquidité en France. Les Français ont épargné 55 milliards pendant la période de confinement. Une partie de cette épargne va partir vers la consommation, et c'est souhaitable. Mais une partie de cette épargne peut aussi partir vers l'investissement. Il va falloir l'orienter. Et je pense que le capital investissement en France a beaucoup de liquidités. Il va falloir les mobiliser. Ça peut être la BPI, ça peut être les régions qui aident à mobiliser cela. Mais pour les grandes entreprises, ça va être l'État qui va être amené à
intervenir directement. Oui. On va revenir sur les cas particuliers.
Mais encore une fois, c'est un investissement. Il doit récupérer ça sorti.
Oui, du reste, c'est ce que disait ce matin le ministre de l'économie et des finances lorsqu'on a posé la question autour d'Air France en disant qui annonce des suppressions d'effectifs. Il disait, enfin de postes. Hein, et Bruno Le Maire disait, attendez, nous, on a mis un prêt, on mettra certainement du capital, on a besoin de rentabilité derrière. Donc il faut que l'État retrouve un peu l'investissement qu'il a mis. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde.
Tout à fait.
Voilà, donc, mais c'est un point important parce qu'après, ça veut dire beaucoup de choses, hein, Louis Gallois. Est-ce que, juste ce matin, est-ce que l'industrie est en train de se déconfiner ou pas?
Écoutez, le déconfinement est engagé, on le voit.
Parce que les mesures sanitaires sont énormes.
C'est une opération très compliquée parce que ça s'accompagne de protections sanitaires extrêmement contraignantes et ça s'accompagne de problèmes de transport pour les salariés. Donc je ne vois pas une reprise extrêmement rapide. Elle va être plutôt lente dans l'industrie dans les semaines qui viennent. Mais il faut essayer d'aller aussi vite que possible quand même. Parce qu'on a absolument besoin de créer de la richesse dans ce pays. Parce qu'on vient d'en perdre. Vous savez que en 8 semaines... on s'est appauvri de 120 milliards d'euros. C'est absolument considérable. Il va falloir les regagner. Et pour cela, il faut que la machine redémarre. Et alors, on dit, on va réorienter le démarrage vers l'industrie verte, etc. C'est très bien. Mais enfin, comme disait un professeur du Collège de France, on ne va pas construire la transition écologique et énergétique sur un champ de ruines. Il faut d'abord que l'économie reparte.
Ah oui, mais alors là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que là, je veux dire, les politiques, enfin les ministres, Bruno Le Maire, ils sont absolument pas d'accord avec vous. Donc, on voyait les chefs d'entreprise, du reste, ça a provoqué un tollé dans la société française, en disant la lettre qu'avait révélée nos confrères du JDD, une lettre qui avait été écrite par le MEDEF et Geoffroy Roux-de-Bézieux, en disant, sur la loi d'économie circulaire, on ne peut pas tenir, il faut revenir sur tous les engagements environnementaux.
Je ne propose pas ça du tout.
Ah oui, mais vous lui dites, sur un champ de ruines, on ne peut pas construire une industrie plus verte.
On peut tout à fait construire, mais on ne peut pas construire sur un champ de ruines. Il faut donc que l'économie redémarre. C'est ça qui est essentiel. Que l'économie redémarre. Je ne dis pas du tout d'alléger les contraintes écologiques qui étaient mises en place, que ce soit pour l'automobile ou pour d'autres secteurs. Ouais. Il ne s'agit pas du tout de revenir sur ce qui a été acquis. Mais il faut que la machine redémarre. Il faut que le commerce redémarre, il faut que l'artisanat redémarre,
le bâtiment redémarre,
il faut que l'industrie redémarre. Et après, sur cette base-là, on peut effectivement, à partir de la crise, orienter le développement. Et moi, je vois deux grands domaines pour orienter le développement. Il y a d'abord tout ce qui concerne le développement durable, tout ce qui concerne les industries liées à l'économie verte ou au verdissement des industries actuelles, et puis le retour d'une certaine souveraineté sur un certain nombre de produits. Je pense qu'il y a au moins 3 chantiers essentiels pour moi. C'est la santé. Il faut que nous réapproprions
en France. Il faut que le Doliprane soit produit en France.
Santé, l'agroalimentaire, toute la filière agroalimentaire, et puis le numérique. Alors ça sera une affaire européenne. Mais on s'est aperçu dans cette crise qu'on était totalement dépendant des plateformes américaines.
C'est la question que je posais aussi à Fleur Pellerin. On est de plus en plus. Enfin,
D'une manière, qui pose un problème existentiel pour l'Europe. Et les Chinois ont résolu le problème à leur manière, qui ne peut pas être la nôtre. Mais il va bien falloir se prendre en main pour que dans la génération de produits qui apparaît autour de l'intelligence artificielle, nous ne soyons pas dans cette situation d'ultra-dépendance. Regardez Amazon, regardez Google, regardez Facebook. Nous vivons avec ça actuellement. Mon entreprise, BSA, va s'orienter vers le télétravail. Le télétravail, c'est le numérique américain qui va le faire, ça c'est clair. Et donc il faut que nous soyons capables de reconquérir dans ce domaine. Ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne. Pour la santé et pour l'agroalimentaire, je pense que ça doit se faire à l'échelle française. Pour le numérique, ça doit se faire à l'échelle européenne.
Mais est-ce que c'est... Enfin, c'est la question, mais
Est-ce que c'est possible ?
Est-ce que c'est possible ? Vous voyez, quand vous voyez la puissance de ces GAFA, vous vous dites, mais est-ce que c'est possible ?
Mais si on ne se pose pas cette question...
Si je vous demande de plus utiliser Google, parce qu'il y a la solution française. On l'utilise beaucoup moins, Quant.
Mais une solution française, il faut voir comment on peut les promouvoir, ces solutions.
On a essayé.
Comment on peut les promouvoir ? Comment on peut les développer ? Et ça doit se faire au niveau européen. Vous savez, si on ne se pose pas ces questions aujourd'hui, Je pense que on ne se posera jamais.
Aujourd'hui, on paye les erreurs qui ont été commises. J'allais dire, pardonnez-moi, vous avez exercé les plus hautes fonctions qui soient, Louis Gallois, puisque vous étiez patron de la SNCF, d'Airbus, et là maintenant de PSA, évidemment, avec Carlos Tavares. Ben, j'ai envie de dire, c'est des décisions qui ont été prises. C'est comme l'histoire des délocalisations dans l'industrie automobile. Oui, a été mis ailleurs. Maintenant, on dit qu'il faut relocaliser.
Je ne parle pas de relocalisation. Je parle de réindustrialisation. On ne va pas faire revenir les usines qui étaient à l'étranger massivement en France. Si nous avons des usines
en Chine... Ah ben c'est ce qu'on vous demande ?
Non, mais si nous avons des usines en Chine, c'est pour vendre au marché chinois. Mmh. On ne vend pas au marché chinois si on n'a pas d'usine en Chine. Mmh. Donc c'est essentiel.
Tiens, justement, je voudrais vous faire écouter, je ne sais pas si le son est prêt, Bruno Le Maire, qui était ce matin, à qui je posais cette question. Écoutez-le, puis après, vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut écouter Bruno Le Maire ? Ah, ben non, il n'y a pas Bruno Le Maire. Bon, en tous les cas, c'est ce qu'il disait, la relocalisation, c'est un point très important. Et surtout, c'est qu'on va donner des PGE, hein, des plans garantis par l'État, éventuellement de augmentation de capital. Il faut des relocalisations.
Relocalisation, moi je te parle de réindustrialisation. C'est ça qui est important.
Les relocalisations, relocalisation, c'est pas possible.
Relocalisation, il faut voir au cas par cas. La réindustrialisation peut passer par certaines relocalisations. Et j'en propose dans le domaine de la santé. Ça me paraît clair. Ça me paraît aussi clair dans le domaine de l'agroalimentaire.
Mais dans l'automobile, vous pouvez pas refaire venir en France les productions automobiles.
On peut le faire, mais il faudra nous expliquer dans quelles conditions économiques on le fait.
Mais c'est la même chose pour la santé.
Premièrement, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous n'accédez pas à certains marchés si vous ne produisez pas sur ce marché. N'essayez pas de vendre des voitures en Inde si vous ne les produisez pas en Inde.
Non, mais il y a des voitures qui sont vendues en Europe et en France.
Elles sont essentiellement fabriquées en Europe.
Pays à moindre coût.
En Europe.
Ah oui.
Sont essentiellement fabriquées en Europe.
Mais pas en France.
Et non, mais ça va poser un problème, parce que c'est interdit, ça, sur le plan. Nous sommes dans une Union européenne, quand même. Hein. Moi, je veux bien qu'on...
Donc vous n'y croyez pas, quoi, grosso modo.
Pour certaines industries, je n'y crois pas, c'est d'accord. vrai. Ouais. L'industrie de la cimenterie, c'est normal qu'on installe des cimenteries à l'étranger.
Non, mais par exemple, pour l'automobile, vous dites.
Mais pour l'automobile, ça a été une question de coût. Qui nous a conduit à cela. On ne va pas revenir dans le débat sur les charges sociales et aussi sur le fait que les salaires en Europe, c'est tout à fait normal, sont plus élevés dans certains pays que dans d'autres. Et évidemment, les industriels vont chercher les coûts les plus bas, c'est clair. Mais il faut trouver un modèle économique. Est-ce que les gens sont prêts à payer leur voiture plus cher ? Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. La relocalisation, ça veut dire une augmentation des coûts.
Oui, mais c'est vrai dans tous les secteurs. Vous parlez de l'agriculture, bah aussi. On prend toujours cet exemple qui a servi la fraise Garriguette. Bah, si vous voulez, elle coûte plus cher que la fraise qui vient d'Espagne. Ça veut dire aussi moins de pouvoir d'achat pour les Français.
Je pense que dans le domaine de l'agroalimentaire, nous avons tous les atouts pour que notre pays soit un grand pays agroalimentaire. Il l'a été, il l'est encore, il doit l'être encore plus. Là où c'est vraiment difficile, je reviens sur le numérique, parce que moi je pense que la prochaine crise peut être une crise numérique. Et que si nous n'y prenons pas garde, nous serons les cobayes de cette crise, parce que les États-Unis et la Chine se préparent à ces crises.
Et alors, qu'est-ce que vous voyez comme crise numérique, justement ?
Une cyberattaque. Nous en avons tous les jours. Il peut y en avoir de plus graves que d'autres. Nous devenons extrêmement vulnérables, d'autant plus que nous sommes de plus en plus, nous utilisons de plus en plus les outils numériques, vous et moi, et tout à fait naturellement. Et je pense que dans ce domaine, l'Europe doit beaucoup investir.
Sur la question du télétravail, parce que donc PSA, votre groupe, a dit que ça devenait la référence. Ça soulève quand même beaucoup de questions, le télétravail, parce que même en termes de vie personnelle, en termes de relations qu'on a avec son entreprise, parce que ça coupe des liens. Donc, est-ce que ça doit vraiment devenir la référence ? Est-ce que ça va le devenir chez PSA ? Et vous, Louis Gallois, à titre personnel, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ?
Écoutez, moi, je...
Vous n'allez pas me dire le contraire de Carlos Tavares, mais enfin, malgré tout.
Je suis en télétravail depuis, pour le conseil de surveillance, depuis 2 mois. Ouais. Ça fonctionne très bien. On tient nos réunions de conseil de surveillance en télétravail.
Oui, mais si c'était tout le temps comme ça.
Non, mais vous posez un certain nombre de questions qui sont des vraies questions. Et il faut que le dialogue social dans l'entreprise soit mené. Il l'est actuellement. Nous sommes en discussion, la direction...
Mais vous y êtes favorable ou pas ?
Moi, je pense que la proportion de télétravail va beaucoup croître et que ça sera un bénéfice pour tout le monde. Il y a un équilibre à trouver. D'ailleurs, il est prévu que les gens viennent passer un jour et demi ou deux jours sur les lieux de travail. Mais vous imaginez l'économie de déplacement pour les gens.
L'économie, tout court.
Le fait de pouvoir habiter plus loin de son travail, dans des endroits moins coûteux. Le fait de pouvoir concilier plus facilement la vie familiale, la vie professionnelle. Il faut évidemment des garde-fous. Mais il faut voir aussi l'aspect très positif du télétravail. Mais je pense que le télétravail ne va pas remplacer complètement le présentiel et il faudra qu'un ou deux jours par semaine, les gens soient en présentiel. De toute façon, il faut éviter...
Et c'est quelque chose qu'on peut généraliser, vous ?
Il faut éviter la coupure entre ceux qui seront obligés de venir travailler, parce qu'on ne va pas assembler les voitures par télétravail, et ceux qui vont dans les bureaux. C'est cette coupure qu'il va falloir éviter. Ça suppose la recherche d'un équilibre. C'est ce qu'on fait avec les partenaires sociaux.
Ouais, mais en même temps, c'est un côté un peu 1984, hein, je trouve, parce qu'on peut dire, c'est-à-dire que le jour et demi, votre collègue de bureau, il aura le jour et demi d'avant ou d'après, et du coup, vous le verrez jamais.
On voit ce qu'on doit voir, et on est en contact avec les autres. Vous savez, la visioconférence, maintenant, est devenue quelque chose d'absolument banal. Et je pense que ça introduit une relation qui peut être forte. Vous savez, en plus, on est une entreprise internationale. Il y a des bureaux partout dans le monde. On travaille déjà comme ça.
Ouais. Est-ce que quelque part, la CGT, elle joue avec le feu? Vous avez vu ce qui s'est passé à Sandouville?
Chez Renault, je me garderai de faire des commentaires, puisque je ne veux pas commenter
mais à la limite, c'est juste parce que ça sert un peu... On sait bien que les chefs d'entreprise leur hantise.
J'ignore tout des conditions de protection sanitaire de l'usine de Sandouville.
C'est des convocations qui étaient envoyées par mail, mais pas par lettre commandée. C'est juste... Est-ce qu'il y a des syndicats qui mettent un peu le feu?
C'est à eux de faire leur propre examen de cette question. Je pense qu'il faut que chacun fasse attention, que l'économie est en très grand risque et que si la reprise ne se fait pas, tout le monde en pâtira, et notamment les plus faibles. Vous savez que j'ai des activités associatives je vois bien comment les plus pauvres, pendant la crise, ont payé deux fois le prix par rapport aux autres. Je ne voudrais pas qu'il y ait une crise économique où ils payent à nouveau deux fois le prix.
Ça, c'est assez important. Est-ce que le monde d'après, je vous poserai la question, est-ce que vous voyez aujourd'hui les conditions pour que l'industrie française puisse s'en sortir? Vous avez déjà esquissé, mais c'était des solutions d'aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle se réinvente complètement?
Écoutez, se réinventer, c'est pas bon, autrement. Il faut qu'elle prenne confiance en elle-même. Ça, c'est le principal, c'est la confiance. Qu'elle prenne confiance en elle-même et qu'elle reparte à l'assaut. Parce que l'industrie, ça se conquiert. Donc, il faut repartir à l'assaut. Et il faut que le gouvernement accompagne. Mais c'est au chef d'entreprise aussi de prendre leurs responsabilités. Je vois, dans nombreux endroits en France, ils prennent leurs responsabilités, ils repartent. Il va investir. Il faudra les soutenir en investissement.
Vous avez travaillé beaucoup avec Philippe Varin sur le pacte productif. Oui. Donc, là, pour l'instant, il est un peu enterré, évidemment.
Mais je pense qu'il n'est pas enterré. Il est.
Décalé. Voilà,
décalé. Ça, quand même, décalé. J'espère que ce pacte productif verra le jour. Je crois que c'est très important.
Les impôts de production. Les impôts de production, Bruno Le Maire a encore dit oui, je suis favorable, etc. Mais on voit bien, tous les maires sont contre.
Oui, mais ça, c'est une question entre les maires et le gouvernement. C'est une question dans laquelle l'industrie n'a pas intervenu. Je crois qu'il y a un diagnostic qui est fait, c'est que les impôts de production jouent assez largement contre la production. Donc, il faut que cette question soit regardée. Moi, je pense qu'il y a, à court terme, il va falloir soutenir l'investissement, et je suis pour le suramortissement. C'est-à-dire qu'on donne aux entreprises les moyens d'investir, parce qu'il va falloir investir.
Sur la question de recapitalisation, si je prends... ce matin, il y avait... quelqu'un que vous connaissez bien, le patron des marques Peugeot, qui disait « on n'a pas besoin d'aide d'État ». J'ai reçu Guillaume Faury, le président d'Airbus, qui disait « nous, on n'a pas besoin d'aide d'État ».
C'est très bien. Bien sûr.
Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « on n'a pas besoin d'aide d'État ». Donc, finalement...
Mais bien sûr, heureusement que toutes les entreprises
n'ont pas besoin d'aide d'État.
Il y a des entreprises qui vont rencontrer de très grandes difficultés, qui ne sont pas obligatoirement des très, très grandes entreprises, mais qui ont été, qui ont vu leur trésorerie complètement asséchée pendant cette période et qui ont énormément de difficultés à redémarrer et qui ont besoin de fonds propres. Alors, est-ce que le marché est capable de leur apporter des fonds propres? Oui, si on le stimule pour une partie, avec la BPI, les régions, comme je le disais. Mmh. Et puis, il y a un certain nombre d'entreprises où je pense qu'il y aura des injections de capital. Je ne sais pas s'il y en aura une chez Air France. Mais quand je vois la situation des compagnies aériennes, je me dis que ça peut devenir inévitable. Je ne me prononce pas sur Air France, je n'ai pas...
La SNCF, enfin, l'État, évidemment, est sous capital, mais...
Bien, les entreprises de transport, en particulier, payent un prix terrible à travers cette crise.
Je parlais tout à l'heure dans leur âge de valorisation, parce qu'évidemment, la valorisation d'une entreprise au mois de janvier, ce n'est pas la même que la valorisation aujourd'hui, d'accord?
C'est clair.
Est-ce que ça change quelque chose dans le deal PSA avec FFCA?
Nous avons baissé ensemble.
Donc, vous avez baissé? Ah oui, vous avez baissé.
Ah oui, parallèlement, parce que maintenant nos cours sont très accrochés, parce que les investisseurs savent que nous allons fusionner, donc ils accrochent les cours l'un à l'autre. Donc nous avons baissé ensemble. Et actuellement, les discussions se poursuivent tout à fait
normalement. Puis là, il y a un marché quand même, c'est l'effondrement du marché automobile. Alors ça va peut-être repartir. Tant mieux, je vous le souhaite.
Mais j'espère. Et d'ailleurs, nous.
Ça ne remet pas en cause le deal quand même.
Je pense qu'il faut qu'on reparte notamment sur les voitures électriques et les voitures hybrides. Et je pense que l'État pourrait, dans ce domaine, donner une impulsion à travers, en remettant par exemple le bonus sur les voitures électriques qui avait été baissé à 3 000, le remonter à 6 000 euros, et peut-être pour les voitures hybrides, un bonus de l'ordre de 2 000 euros, par exemple. Je pense qu'il va falloir, c'est un moyen ça, de relancer la consommation, et une consommation qui correspond à ce qui paraît souhaitable.
Ça ne remet pas en cause le deal?
Ça ne remet pas en cause le deal,
non. Le timing du deal?
Non, le timing, vous savez, est entièrement dépendant des autorisations qui sont demandées.
Oui, on sait bien. Donc... Alors, en conclusion, le monde d'après, pour vous, Louis Gallois, c'est quoi le monde d'après?
Alors, je vais sortir peut-être de la
casquette. Non, oui, c'est vous, c'est le vôtre. Oui.
Je souhaiterais que nous allions vers un monde plus solidaire. C'est-à-dire un monde où nous avons pris conscience que nous étions tous dans le même bateau. Et il faudrait que ça se traduise, ce monde très solidaire, par une expression plus collective, plus de confiance, plus de démocratie certainement, parce que la solidarité se construit à travers la démocratie, c'est-à-dire qu'il faut, les gens veulent pouvoir s'exprimer. Mais je pense que cette solidarité, ça peut être le ciment de la société française, comme elle ne l'a pas été. Puis bien sûr, il y aura des évolutions, on en a parlé sur le numérique, on en a parlé sur la transition écologique et énergétique. Je pense que ces choses-là vont être accélérées. Il va y avoir des prises de conscience sur le fait que nous sommes maintenant dans un monde qui a sa propre solidarité, et il va falloir qu'elle s'exprime, cette solidarité.
Vous êtes pour le revenu universel ou pas ?
Je ne suis pas pour le revenu universel, je suis pour...
Et là, vous devez être faire grand écart entre le Louis Gallois social et Louis Gallois grand patron.
Je suis plus pour une assurance emploi que pour le revenu universel.
C'est quoi une assurance emploi ?
Eh bien, c'est le droit qui est d'ailleurs prévu dans la Constitution pour tout le monde de pouvoir travailler. Alors, ça ne se construit pas en un jour. Mais l'objectif, ça doit être que tout le monde puisse avoir un emploi.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci
Louis Gallois d'avoir été avec nous, donc président du conseil de surveillance PSA, et puis ce président de think tank La Fabrique de l'industrie, qui défend justement l'industrie française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve bien sûr demain à 12h-13h, puis 8h-15, l'interview de la matinale.